Voilà, Onde Noire, deuxième partie, et nous avons le grand plaisir d'accueillir Jackie Schwartzmann. Jackie, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre, bienvenue dans notre émission. On est vraiment ravis de vous accueillir pour parler de votre dernier roman qui vient de paraître aux éditions du Seuil dans la collection Cadre Noir. Ce roman s'appelle « Demain, c'est loin ». Un mot de présentation, vous vous consacrez complètement à l'écriture ?
Alors, pas encore. J'ai toujours un travail alimentaire, je travaille en industrie. Mais j'ai bon espoir pour l'année 2018, effectivement, de vivre totalement de mes écrits.
Ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite.
Également voir des scénarios également. Je fais des scénarios et c'est...
Un peu d'écriture théâtrale aussi. Un peu de théâtre.
Alors, j'en ai fait. J'ai des pièces qui sont dans mon ordinateur et j'aimerais aussi percer un peu dans le théâtre, mais là c'est plus compliqué, c'est plus j'ai moins de réseau, on va dire, pour l'instant.
Donc demain c'est loin vient de sortir. Je précise aussi que votre précédent roman Mauvais coup est reparu réédité en poche point seuil à peu près en même temps, et puis que le premier, celui dont on parle aujourd'hui, Demain c'est loin, a reçu il y a pas longtemps le prix Transfuge du meilleur espoir polar. En fait, perso, il y a pas besoin d'espoir, pour moi c'est très confirmé, hein. Je vais résumer l'histoire et vous allez me dire si vous êtes à peu près d'accord. Je vais utilisez vos propres mots. Vous dites à un moment donné, plongez deux ennemis jurés dans une situation bien bordélique, mettez-les en danger, forcez-les à devoir s'en sortir ensemble. Ça vous convient comme pitch, comme début, comme résumé un peu d'histoire ?
Voilà, c'est exactement ça.
Alors donc, ces deux ennemis jurés, je vais vous demander de les présenter. Nous avons en premier... En par ordre d'apparition en scène, François Fellman. Évidemment, ce n'est pas le chanteur, bien évidemment. Présentez-nous un peu ce personnage. Il a un drôle d'itinéraire.
Alors, François Fellman, c'est typiquement c'est un type qui a 40-45 ans. C'est typiquement le gars de banlieue qui est quand même assez tranquille. Il a pas de casier judiciaire. Il a jamais donné dans le grand banditisme, mais bon, il a la culture de banlieue, de cité, je sais pas comment on peut l'appeler. Mais il a une autre particularité, c'est qu'il veut absolument réussir. Il a plein de projets en tête, plein de projets fous. Et tous ces projets ont, on va dire, un point commun, c'est que c'est toujours une fausse bonne idée.
Oui. Quoique.
Beaucoup de déceptions. Oui, enfin, voilà, c'est dans l'histoire, c'est des fausses bonnes idées. Mais moi, j'ai beaucoup de tendresse pour certains de ses projets, et je me dis même que dans la vraie vie ça pourrait marcher, mais donc ça c'est...
Moi aussi.
C'est un autre débat, mais voilà, donc ça c'est le premier personnage. Le second personnage, c'est Juliane Bacardi, banquière, elle est BCBG, elle est banquière, elle est de droite, voire un peu
réac quand même, hein.
Voilà, il y a des fois
qui tourne
un peu sur sa droite, quoi. Voilà, au début, oui. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une collision entre ces deux personnages et entre deux mondes, en fait. Donc c'est un principe qui est assez classique, hein. On peut penser même au film avec Pierre Richard et Depardieu.
Mmh. Hein, oui, c'est duo improbable.
Voilà. Et j'ai essayé d'en faire quelque chose de neuf. Voilà.
Tout à fait. Et c'est totalement réussi. Vous avez réussi. Il y a beaucoup d'inventivité, beaucoup de rythme. Ils vont donc se rencontrer une première fois. Ils vont devenir donc ennemis jurés parce qu'évidemment, il va lui demander du fric. On va pas raconter beaucoup l'histoire. Et vous allez juste nous dire un petit peu la deuxième rencontre. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi ils vont être obligés de fuir ensemble et de cohabiter, s'il vous plaît.
Alors, lors de leur deuxième rencontre. C'est totalement par hasard dans la cité, donc c'est la cité de Débuère à Villeurbanne, donc c'est collé à Lyon. Lui, il est comme il n'a trouvé aucun financement pour son dernier projet en date, il se retrouve à aller chercher l'argent là où il est, donc vers un de ses amis d'enfance qui est devenu dealer notoire, donc qui a beaucoup de liquidités.
Saïd le Caïd.
Voilà, Saïd le Caïd l'envoie promener par rapport à la nature de son projet, donc ça je peux pas trop en parler parce que ça dévoilerait trop de l'histoire. Et donc en repartant, en fait, il assiste à une espèce d'accident de voiture improbable, une Audi qui écrase un jeune contre un mur. Il se trouve que le jeune est un cousin de Saïd, donc le caïd, et puis il se trouve que le conducteur de l'Audi est sa banquière.
Alors c'est, là, c'est juste
une première collision physique, un accident de voiture qui déclenche toute l'histoire. Ils partent en, ils se retrouvent obligés de partir en cavale les deux. Et ça amène la deuxième collision, donc qui est la collision entre leurs deux mondes, leurs deux habitus, leurs deux héritages culturels qui vraiment n'ont rien à voir. Ils se détestent, ils n'ont rien à se dire au départ.
Au départ, ils n'ont rien à se dire. Et en fait, là, on aborde le vrai sujet du roman, parce qu'on va avoir des fuites trépidantes, on va avoir des scènes inénarrables, on va avoir beaucoup de surprises bonnes et mauvaises, surtout pour les personnages. Mais en fait, il y a derrière tout ça un sujet qui est un vrai sujet de roman noir. Vous allez me dire si je me trompe, hein, j'ai quand même un petit peu l'impression que le projet de ce roman, c'est justement de faire un instantané d'un petit morceau de France entre banlieue et centre-ville, parce que François, donc lui, il se dit qu'il est arrivé parce qu'il est arrivé en centre-ville, et puis il y a ce télescopage, cette collision qui est à la fois vraie et métaphorique avec Juliane, et c'est cet instantané de plein de mosaïques de morceaux de France, comme une espèce de puzzle que vous essayez de décrire à votre façon, bien évidemment.
Oui.
Alors, c'est un peu le projet ?
C'est exactement le projet du... Le projet du livre, je me suis dit, il y a vraiment, il y a au moins deux France pour caricaturer. Il y a des gens de banlieue, donc qui ne sont pas forcément maghrébins. C'est pour ça que mon personnage n'est pas maghrébin. Alors déjà parce que moi-même ne l'étant pas, ça serait certainement senti dans l'écriture, ça aurait sonné faux. Mais je voulais aussi que la cité soit pas spécialement
stigmatisée,
associée à un personnage maghrébin. Voilà. Mais je me suis quand même dit, voilà, il y a des gens de banlieue qui sont français, qui ont une langue maternelle qui est le français. Il y a des gens comme cette banquière qui est un petit peu caricaturale aussi. Hein. Quand on fait un roman, on caricature forcément les personnages.
Puis-je vous contredire, justement ? Je trouve que...
Comment ?
Je vous contredis un peu la façon, la violence de certains propos et l'ironie de certains propos, ben ça, justement, ça évite la caricature et ça amène la tendresse.
Ah ben tant mieux, je prends. non, mais je prends volontiers ça, d'ailleurs, comme un compliment. Mais il fallait de toute façon quand même qu'il y ait en tout cas une nette différence entre ces deux personnages qui sont effectivement deux France, comme vous le disiez. Et je me suis dit, je suis parti d'un constat, je me suis dit, dans la vraie vie, c'est des gens qui ne se parleront peut-être jamais en une vie entière.
Oui, c'est cette incapacité à communiquer.
Comment ?
L'incapacité à communiquer, et en fait, en réfléchissant, c'est pas une idée totalement nouvelle, mais vos propos et la façon dont vous présentez les multiples personnages, parce qu'il y a ces deux personnages principaux, puis il y en a plein d'autres qui viennent de plein de ces petits morceaux de territoire, c'est juste en fait qu'ils ont pas les mêmes codes pour parler, finalement.
Ah, c'est exactement ça. Je parlais tout à l'heure d'habitus, donc c'est la notion de Bourdieu. Qu'on peut traduire en schématisant par l'héritage culturel, ils n'ont pas le même, tout simplement. Donc ils n'ont pas les mêmes références. Donc parfois, ça fait dialogue de sourds. Et donc l'idée du roman, c'était de me dire, mais je vais en prendre deux, puis je vais les mettre dans un endroit où ils sont obligés de se parler. Alors il se trouve que, de par mon histoire familiale, moi j'ai vécu ces deux éducations différentes en même temps, en simultané. C'est-à-dire que dès l'âge de 5 ans, j'étais la semaine, moi je suis de Besançon, dans l'Est. Donc dans Besançon centre, la bourgeoisie, des lycées, collèges et lycées un peu chic. Et le week-end, j'étais en banlieue chez mon père. Donc j'ai eu les deux en permanence, je connais les deux. Avec les avantages, ce qui est super, c'est que j'imagine que j'ai une ouverture un petit peu que d'autres n'ont pas. Avec les inconvénients, c'est que on n'est jamais totalement à sa place, ni dans un camp ni dans l'autre. Mais donc du coup, ce roman, c'est un peu une métaphore de ma vraie vie, de la double éducation que j'ai eue.
Ouais, ben, justement, la prochière question, c'était l'idée qu'il y avait... bon, j'aime pas trop ce genre de question, d'ailleurs, la part un petit peu autobiographique. Mais moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est la justesse des propos de chacun. Et je me demandais si comment vous observiez, comment est-ce que vous preniez des notes de temps en temps sur certaines phrases, certains propos, des scènes un peu à l'emporte, enfin des mots pardon à l'emporte-pièce. J'avais l'impression que de temps en temps vous devez observer et prendre des notes, non ? Mais bon, apparemment c'est un petit peu ce que vous avez
fait. J'ai fait en permanence en fait. J'ai un système bon, personnel, hein, c'est, je m'envoie des mails à moi-même en permanence quand j'ai des idées ou quand j'entends des dialogues ou je dis très souvent que c'est un peu une boutade, mais que le meilleur endroit pour écrire un roman, c'est la machine à café le lundi matin. Mmh. Bah, faut juste être là, écouter. Enfin, c'est effectivement les dialogues sont vrais dans la vraie vie. Il suffit de d'en rechoper des morceaux. Donc effectivement, je prends beaucoup de notes en permanence. De toute façon, je pense à mes romans en cours en permanence. Je pense qu'à ça. Donc à partir du moment où je suis réveillé, je travaille, même si j'écris pas, je travaille à ça, quoi.
Et donc il y a même si encore une fois je trouve qu'on évite la caricature, vous ne démontrez pas, il n'y a jamais de démonstration, mais vous montrez énormément de clichés que les uns et les autres ont, et puis aussi la bande à Saïd, et puis les flics, et puis les mecs de droite, et puis les uns et puis les autres. Et il y a une scène qui m'a marquée. On a un petit peu ça dans la tête, mais elle m'a quand même beaucoup marqué. C'est à un moment donné, ils se planquent, les deux, Juliane et François, et il y a un couple qui risquerait, un couple banal, classique, qui risquerait de les rencontrer, de les déterrer de leur lieu où ils se planquent. Et Juliane, tout naturellement, elle ment, et elle présente François Feldman, ce juif à tête d'arabe, et ben ça peut pas être son compagnon, parce que les autres, ils vont comprendre que ça va pas. Donc elle le présente comme son jardinier. Et ça, c'est très très fort comme scène, parce que ça dit rien, ça dit tout.
Ben oui, et puis ce qui m'a amusé avec les clichés de l'un et de l'autre, c'est surtout quand ils sont vrais, en fait.
Mmh, oui.
Cette scène, c'en est vraiment le reflet, parce que effectivement, alors lui, quand ce fameux couple s'en va, il lui fait une scène, il dit bah, ça y est. Je suis un mec de banlieue, j'ai une tête d'arabe, forcément je suis jardinier et puis je suis votre employé, quoi. Donc ça l'énerve, et puis elle lui dit tout naturellement, elle lui dit oui. Enfin, si j'avais dit que vous étiez mon compagnon avec votre tête, ça aurait paru très bizarre, et puis il serait resté dans les pattes alors que là ils sont partis. Voilà. Mais après, ce que j'essaie de faire aussi, c'est que la scène sonne un petit peu tendue entre deux, voire un peu sérieuse. Mais je désamorce tout de suite après avec une scène plus drôle ou toujours en jouant sur les clichés, mais où le lecteur en tout cas va se marrer pour pas.
Oui, il y a beaucoup de moments où il y a beaucoup de scènes où complètement je dirais déjanté, des fois faussement drôle, ouais. Et puis vous dézinguez à tout va. Voilà, moi je trouve que voilà, vous assenez quelques vérités. Alors assenez d'ailleurs n'est pas vraiment le mot, mais dans le ton, et puis tout le monde en prend pour son grade. Je cite de la Cour pénale des médias télévisés, je recite à la culture banlieue, mélange de Scarface, Mamie Vice et Louis la Brocante, on voit le genre, ouais. En passant par les pétasses du lycée qui sont en fait les futurs bourges. Donc là, vous êtes bien éclaté quand même. Vous êtes bien régalé.
Allez, alors oui, ça c'est peut-être des restes de ma culture de banlieue où on vanne beaucoup. Il y a quand même ce côté un peu coq à envoyer des vannes. Et j'ai essayé également effectivement d'arroser tout le monde. Voilà, le but étant qu'on puisse pas me mettre dans une catégorie, moi. Qu'on puisse pas se dire, cet auteur, c'est un mec de droite ou de gauchère, voilà, y a pas de. J'essaie de. Vraiment, dans mon esprit, je j'écris pas un essai, j'écris un roman. Donc, je plante un décor avec ses personnages et forcément ses valeurs, ses idées. Dans mon roman précédent, qui s'appelait Mauvais Coup, sorti à la fosse aux ours, le personnage principal était un acheteur dans une multinationale. Donc il avait des idées de droite, il était ultra-libéral, etc. Si j'avais donné, prêté des propos de gauchiste à ce personnage, ça tient pas debout. Mm. Voilà, donc là, c'est, du coup, pour ce roman-là, c'est l'inverse. Donc parfois je dis des vérités, mais en m'arrangeant pour qu'on ne sache jamais ce que moi, l'auteur, je pense, qui d'ailleurs, je pense que c'est pas intéressant pour le lecteur.
Non, tout à fait. Et puis il y a l'idée qu'on est, comme vous dites, dans un roman. Donc il y a une histoire, donc il y a de la fiction. Et puis quand même, pointe, régulièrement un petit peu beaucoup de vos sentiments. Et j'aimerais savoir un petit peu le sentiment qui a prédominé à l'écriture de ce roman. Il y a des fois, c'est un petit peu la colère. Je dis, il y a énormément de tendresse. Vous les loupez pas, vos personnages, mais sourd tout le temps, beaucoup, beaucoup de tendresse. Donc, il y a un sentiment qui a prédominé pendant l'écriture du roman.
La tendresse, ça me va bien, ouais, pour les deux personnages, d'ailleurs. J'ai vraiment pris ce roman comme une grosse déconnade à me lâcher au niveau des événements, de ce
qui arrive. Il y a des scènes inénarrables, il y a une attaque de très grands méchants qui sont en train de torturer une petite vieille, la maman de Juliane, qui n'est pas si petite vieille que ça, mais avec un balai, c'est haut en couleur, hein.
Bah là, après, moi, je suis aussi très influencé par la culture cinéma, plutôt, ou séries télé, par les frères Cohen. Donc
tout à fait, oui. Il y a un peu de Fargo.
C'est Tarantino dans l'esprit, quoi. Voilà, c'est un petit peu... Ça frise presque le grotesque, je sais pas, mais en tout cas, c'est de l'action. C'est un peu de la parodie d'action. Mais pour en revenir au sentiment prédominant, c'est donc déjà beaucoup d'amusement. Je me suis vraiment amusé à faire cette histoire. Et effectivement, beaucoup de tendresse. Et autant pour mon team de banlieue que pour ma BCBG de banquière, qui pourtant, toujours dans l'esprit de devoir recréer une réalité, et donc son univers mental à elle, j'ai parfois tenu des propos limite racistes. Donc c'est facile à trouver, hein. Mais j'ai eu de la tendresse pour cette fille qui d'ailleurs évolue, parce que le but de tout roman, enfin la mécanique de tout roman, c'est que on a une situation de départ, on a un personnage ou plusieurs, il y a un problème, ils doivent le résoudre et ils évoluent, enfin, en bien ou en mal.
On arrive au terme de cette émission, donc je voudrais finir par une question. On a donc ça va à 200 à l'heure, il y a un rythme haletant et les dialogues aussi sont très très enlevés, très vifs, très rythmés. Est-ce que vous lisez en écrivant au fur et à mesure, donc vous nous avez dit que vous envoyez des mails, je trouve ça très malin. Est-ce que vous lisez au fur et à mesure vos textes à haute voix, parce que il y a un son.
Alors pas haute voix, mais effectivement je relis en permanence quand j'écris un roman, toutes les 10-15 pages, et je recommence tout depuis le début avant de continuer.
Ah d'accord.
Donc j'ai vraiment en tête. Alors je lis pas haute voix, mais je le fais dans ma tête, mais effectivement je me dis les répliques. Ce que je déteste dans les romans, c'est ceux des autres, c'est quand il y a des répliques où on a l'impression que c'est un professeur de français qui parle alors que c'est un personnage...
Deux points, ouvrez les guillemets.
Ouais, on n'y croit pas, souvent pas une seconde. Là, je fais cet effort, que ce soit du réalisme le plus réel possible, quoi.
Alors, juste une minute, enfin, un peu moins d'une minute. Je pose rarement la question, mais là, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait aussi beaucoup de musique. Est-ce que ce roman a été écrit sous hypervitamine musique?
Ah oui, j'ai une playlist que j'écoute. Je ne peux pas écrire sans musique.
D'accord.
C'est très, très varié. Ça va de NTM à Alain Souchon. Enfin, j'ai vraiment une palette très large. Mais alors, c'est des chansons que je connais par cœur. Comme ça, je n'ai pas à réfléchir à l'écoute. Et c'est des chansons et aussi qui ne peuvent pas me déconcentrer. Donc, je ne mets pas de Jacques Brel, par exemple. Parce qu'on ne peut pas écouter Jacques Brel sans l'écouter. Donc voilà, c'est quand même un peu de easy listening de luxe, on va dire.
Jackie Schwartzman, on a encore 10 secondes, donc je vous remercie beaucoup. Je recite le nom du roman « Demain, c'est loin » aux éditions du Seuil, collection Cadre Noir. Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Au revoir. C'est la fin de notre émission. Bye bye, à la prochaine fois.